Groupe Humain ou L'Histoire d'Alexandre, une émission proposée par François Angelier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Dumas Trop Humain qui va être une espèce de grande cavalcade tout au long de l'histoire universelle de l'histoire de France, telle qu'elle a été vue, envisagée, transfigurée, interprétée par Alexandre Dumas, dont nous fêtons cette année le bicentenaire et qui est en passe en octobre d'être panthéonisé. Alors donc nous partirons des créatures les plus mythiques de l'histoire universelle. Demain nous parlerons de Isaac Lakedem, le juif errant, et nous terminerons tout au long de cette grille d'été de France Culture, le dernier jour, nous terminerons avec Garibaldi et puis cet engagement fraternitaire de Alexandre Dumas pour la cause de la liberté italienne. Et entre ces deux personnages, entre ces deux dates, il y aura la Grèce, il y aura le Moyen-Âge, il y aura l'époque baroque, l'époque classique et puis tout ce 19e siècle dont Dumas était un acteur et un témoin parmi les plus privilégiés. Alors justement, pour faire ce grand périple dumasien avec moi et en votre présence, tous les jours donc à 7h, avec moi donc Claude Schoop. Bonjour Claude Schoop.
Bonjour.
Alors on va vous découvrir tout d'abord. Claude Schoop, vous êtes la personne à qui l'on doit d'abord les remarquables éditions Dumas qui sont parues depuis combien de temps? Depuis
une dizaine d'années.
Une dizaine d'années en bouquin à la fonce, les grands romans d'Alexandre Dumas. Il y a aussi bien les mémoires d'un médecin, toute la période pré-révolutionnaire. Il y a le roman des Valois. Il y a là, évidemment les romans Le cycle des mousquetaires. Une entreprise considérable que vous devez à la bienveillance de Guy Scheller, dont on peut saluer la mémoire.
Oui, il faut absolument. Il avait lu très jeune, pendant les leçons de latin, ses leçons de latin Monte Cristo, il ne s'en était jamais remis, donc il a voulu, donner à Dumas la place que Dumas avait dans son cœur, à un moment où Dumas avait peu d'éditeurs.
Alors il vous a confié donc ce travail tout à fait considérable, puisque vous avez tout repris. Vous avez repris d'après les manuscrits, d'après les différentes éditions, les parutions en feuilleton. Vous avez fait un état du texte qui est sûrement l'état définitif.
Oh non, pas définitif, heureusement pour mes successeurs. Non, mais c'était,
À l'heure d'aujourd'hui.
À l'heure d'aujourd'hui, c'était le premier travail critique vraiment sur un si grand nombre de romans. Et ensuite, la collection Quarto chez Gallimard m'a permis de continuer avec Olympe de Clèves.
Sans Félix.
Voilà, donc cela fait un travail considérable mais plaisant parce que...
Alors justement, on va y venir. Vous êtes également, bien évidemment, le biographe d'Alexandre Dumas, une biographie parue d'abord à la Mazarine, puis chez Fayard. La prochaine édition paraîtra sûrement la rentrée chez Fayard. Alors évidemment, la question rituelle à vous, Claude Schoop, comment en êtes-vous venu à vous consacrer à ce point Alexandre Dumas? Parce que tout le monde a lu Les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte Cristo et ton enfant, et tout le monde en a été ébloui, mais tout le monde n'a pas publié vos éditions et votre biographie. Donc qu'est-ce qui a fait que vous êtes voué à Dumas?
C'était mon goût, d'abord pour le romantisme, bien sûr, mais aussi le plaisir, je dirais, de la forêt vierge. Parce que Dumas étant discrédité universitairement...
Alors ça, c'est quand même étonnant. Parce qu'autant, pour ne rien dire de Stendhal, de Baudelaire, qui remplissent des bibliothèques entières, de Balzac, bien évidemment, Dumas était à ce point discrédité.
Oui, entre la thèse de Parigo en 1902... et la mienne en 86, il n'y a pas de thèse.
Ah bon ?
C'est-à-dire qu'il y a eu 80... C'est pas un malheur pour un écrivain, mais c'est une réalité. C'est-à-dire, lorsque l'on travaillait sur Dumas dans les années 70-80, l'impression délicieuse d'être un pionnier, de parcourir la prairie du Grand Ouest, si j'ose dire. Et donc, le premier travail à faire, c'était un immense arpentage, parce que non seulement c'était un écrivain ignoré, mais c'était aussi un écrivain absolument immense, avec des œuvres qu'il faut d'abord répertorier avant de travailler vraiment sur Dumas.
Alors c'est un importage, j'imagine, qui a commencé par le catalogue des manuscrits. Il faut savoir où étaient les manuscrits, ceux qui restaient.
Oui, enfin, pour les manuscrits, c'était extrêmement complexe, parce que Dumas, avec le sens du don que l'on va sans doute développer dans les prochaines émissions...
Ce grand ami offrait ses manuscrits.
Voilà, il s'est absolument débarrassé de ses manuscrits, volume après volume, c'est-à-dire qu'on... On a beaucoup de difficultés à retrouver des volumes entiers de ces manuscrits. Donc c'est plutôt des sondages qui nous permettent de voir que le texte imprimé est loin du texte manuscrit pour des raisons de censure, très souvent, de mauvaise lecture. Donc un retour au manuscrit s'impose dans la mesure du possible.
Et quel a été un peu le... Quel écho ont trouvé vos travaux dans l'université, puisque vous étiez le premier depuis 1902 à travailler? Est-ce que ça a été difficile d'imposer Dumas comme grand sujet?
Oh, on peut dire que c'est plus que difficile. Enfin, disons que c'est surtout très long. Mais actuellement, de nombreux colloques ont lieu, de nombreuses communications. La connaissance reste encore très parcellaire. Mais il y a un intérêt, un regain. Il a même été question cette année, malheureusement, ça n'a pas eu lieu parce que l'inspection est... générale et très frileuse, il a été question de mettre Dumas à l'agrégation cette année. Ça n'aura pas lieu.
Eh bien, laissons là sa frilosité, nous, France Culture, nous allons faire ce qu'il faut pour développer le génie de Dumas. Alors, tout au long donc, de ce Dumas trop humain, sur la grille d'été de France Culture, nous serons tous les deux, Claude Schoppe, mais en compagnie souvent d'historiennes ou d'historiens qui seront spécialistes du personnage tel que l'histoire nous l'a livré, vous étant spécialiste du personnage tel que Dumas l'a rêvé. Aujourd'hui, nous sommes tous les deux, parce que nous allons parler tout simplement de la conception dumasienne de l'histoire, la vision que Dumas avait de l'histoire et de son travail. Alors Claude Schoppe, j'aimerais qu'on parle d'abord des lieux communs. Toujours intéressant de commencer par les lieux communs concernant Alexandre Dumas et l'histoire. Alors on les connaît, l'histoire est un clou auquel j'accroche mes tableaux, on peut violer l'histoire, peu importe, l'essentiel est de lui faire de beaux enfants. Déjà les phrases ne sont pas justes, elles n'ont pas été prononcées, et en même temps elles ne tiennent pas debout quand on a lu les romans.
Absolument, bon alors on va parler du clou, on va renfoncer le clou du moins, faire le contraire.
Extraire le clou.
Bon, le clou, Dumas a prononcé quelque chose qui ressemble à ça, mais il a dit quelque chose comme Henri VIII est un clou auquel j'accroche mon tableau, mais le tableau, c'était un tableau théâtral, c'était Catherine Howard, donc, et c'était bien avant qu'il ne songe à écrire des romans. Et par un abus tout à fait remarquable, on a fait de ce qui était pour Dumas extra-historique, on en a fait un jugement général où sa fantaisie s'accrochait à un clou d'histoire. Ce qui est totalement absurde, puisque au contraire, tout Dumas repose sur une étude de l'histoire, une analyse de l'histoire et des emprunts assez sérieux à l'histoire.
Donc c'est plus un homme de cabinet qu'une espèce de rêveur cervelé. C'est un homme d'ailleurs qui est contemporain des grandes recherches sur les mémoires d'époque,
voilà.
Un grand renouveau historiographique. Ça, on l'oublie un peu.
Oui.
Quand même, en même temps que Michelet, dont il était l'ami, Prosper de Barante, Quinet, Lamartine, il y a quand même une...
Oui, non. En fait, Dumas a beaucoup... Il y a une période mystérieuse dans la vie de Dumas. Dumas est, en somme, un écrivain très mystérieux, contrairement à ce qu'on croit. Et il y a une période tout à fait étrange de son arrivée à Paris, au moment où, véritablement, il commence à écrire pour le théâtre, ses 4 ou 5 ans, où l'autodidacte qu'il était devient un fou de lecture que certains échos nous donnent, c'est-à-dire qu'il est capable, avec une mémoire prodigieuse, de retenir je ne sais combien de 11 000 vers théâtraux ou 20 ou 100 000 vers théâtraux. Il est capable aussi de lire tout, justement, toutes ces mémoires du temps qui arrivent dans ce siècle de l'histoire qu'est le 19e, parce que il y a la nécessité d'une réflexion après la Révolution, c'est-à-dire les temps nouveaux vont se pencher sur l'Ancien Régime pour essayer de le comprendre. Et donc, Dumas va profiter de ces merveilleuses collections, énormes, immenses, Buchon et autres, et il va devenir un individu très savant, ce qu'on oublie toujours. Ce n'est pas l'image qu'on en a. Ce n'est pas véritablement un homme de cabinet, c'est quelqu'un qui... Il ressemble plutôt à un aigle qui plonge sur sa proie. Et s'il a besoin d'une proie, il la prend. Et donc, il va donner toute sa réflexion dans un ouvrage qui s'appelle « Gaulle et France » en 1933. Il n'a que 31 ans à ce moment-là. Et « Gaulle et France » va être pour Dumas l'occasion de donner sens à l'histoire. Et ce texte, il va souvent le reprendre... parce que il montre dans son texte la compréhension qu'il a de la France et des progrès nécessaires qui ont été menés par des hommes souvent providentiels et qui vont permettre à la France de passer d'abord de la féodalité à la seigneurie, de la seigneurie à la monarchie absolue. Et la monarchie absolue, quand il n'y a plus qu'une tête à couper, c'est plus facile. On va passer à la démocratie.
Alors ça, c'est le Dumas penché sur les archives, grand dévoreur de textes et de mémoires. Mais on pourrait également évoquer Dumas, les Dumas face à l'histoire, puisque sa famille n'a pas été, bien au contraire, épargnée par l'histoire.
Oui, enfin, non pas épargnée, elle est une résultante de l'histoire. En vérité, c'est une famille étrange, puisqu'il va toucher par tous les membres de sa famille, à peu près à tous les ordres, de l'esclavage de sa grand-mère, Marie Cécette, esclave noire de la Martinique, sans doute d'origine du Bénin, jusqu'à l'aristocratie, une petite aristocratie, mais quand même marquis... peut-être de complaisance, mais marquis
David de la pailleterie.
Les David de la pailleterie. Et entre les deux, il y a la famille maternelle qui, au contraire, appartient à une petite bourgeoisie boutiquière. D'abord le service, puisque son grand-père était officier de bouche des ducs d'Orléans. Et ensuite a ouvert un commerce, un hôtel. Donc, il y a cette petite bourgeoisie, mais une petite bourgeoisie à qui la Révolution va faire tout perdre. Contrairement à la bourgeoisie qui est en période triomphante, là, il va y avoir à la fois... quatre origines différentes, sociales différentes, en quelque sorte, et en définitive, à la fin, l'échec et la gêne et la misère. Donc, Dumas va essayer d'expliquer, à travers l'histoire, son histoire personnelle.
Alors, on connaît bien évidemment, on va le voir tout au long de cet été, les romans historiques d'Alexandre Dumas, qui ont fait sa célébrité universelle, mais il n'a pas commencé par les romans. Il y avait une espèce de défiance curieuse à l'égard du genre romanesque. Il a commencé par des chroniques.
Oui. Je crois que le roman n'existait pas, le roman historique n'existait pas vraiment en France. Le roman historique, c'était Walter Scott. Et Walter Scott, il a un doute, il a des difficultés à véritablement prévoir. C'est contraire à son tempérament, ses longues préparations quasiment balzaciennes des romans de Scott l'ennuient. Et il pense beaucoup plus à animer les chroniques plutôt qu'à écrire du roman où il trouve que le roman, ce seront...
Alors, qu'est-ce qu'il trouve au roman avant d'en devenir la plus grande incarnation ?
Il trouve vraiment que ce sera un mannequin, dit-il, un mannequin sans réelle attache historique. C'est-à-dire, ce sera un mannequin habillé des habits de l'histoire, mais qui ne sera pas l'histoire. Hein ? Autant, et il trouve par ailleurs que... l'histoire elle-même, très souvent, c'est de l'ordre du cadavre, légèrement maquillé, mais que c'est du cadavre. Donc il voulait trouver ces périodes de galvanisation, hein, les expériences de galvanisation. Il voulait galvaniser l'histoire pour
et injecter un influx électrique qui la réveille.
Il tenait de là. Et ses premières œuvres historiques, qu'il publie dans la Revue des Deux Mondes et qui ont du succès, sont des chroniques. Animé essentiellement par son don du théâtre, parce qu'à ce moment-là, ce n'était qu'un homme de théâtre.
Alors justement, pourquoi pensait-il que le roman pouvait laisser l'histoire à la porte, alors que le théâtre, non ?
Ça, c'est
parce qu'il commence avec Henri III et sa cour, après, les choses continuent.
Oui, en fait, disons que, par essence, le théâtre est bref, et permet de mettre en valeur un certain nombre de scènes très caractéristique, alors que le roman se joue sur de la longue durée, et c'est là que, me semble-t-il, se trouve l'idée de mannequin qui ne ressemble pas à l'histoire, alors que au théâtre, c'est véritablement la passion qui domine.
Alors, il se lance dans le roman, mais pour des raisons d'ailleurs qui sont un peu extérieures. C'est les mystères de Paris, c'est Eugène Sue, qui, par cet extraordinaire succès du roman, du feuilleton populaire, et puis la fidélité, l'attachement du public au héros, pousse Dumas...
Au feuilleton. C'est-à-dire, il est très, comme il était rétif au roman, il est rétif au roman feuilleton. On le voit très bien avec le Chevalier d'Harmental, qui est le tournant
qui se passe pendant la Régence, voilà. Qui est un roman d'ailleurs de cap et d'épée, qui se passe beaucoup sur les toits de Paris, assez étonnant.
Dumas n'avait pas du tout l'intention d'écrire un roman pulpe historique. Maquet, professeur d'histoire, un jeune homme à ce moment-là, qui n'est pas encore son collaborateur véritablement, lui donne une nouvelle, le Chevalier d'Harmental. Dumas est à Florence, il écrit ce Chevalier d'Harmental, et lorsqu'il s'agit de publier, on lui dit, allez au siècle, le siècle lui fait pas de proposition. Il dit, non, le feuilleton, ça coupe trop, c'est pas intéressant, je préfère que le lecteur ait une masse plus importante de pages, et il veut absolument, à ce moment-là, le publier encore en revue, comme il le faisait généralement. Et dans l'intervalle, arrive le succès, effectivement, des Mystères de Paris, un succès considérable, puisque le nombre des abonnés du journal augmente, c'est-à-dire que les propositions des journaux vont devenir très alléchantes. Et à partir de ce moment-là, et à partir surtout du succès des Trois Mousquetaires, il ne va se consacrer qu'au roman historique.
Alors je vous propose d'entendre maintenant un texte tiré des Compagnons de Jégu, chapitre 36, chapitre sculpture et peinture, où justement Alexandre Numa donne un petit peu sa philosophie de l'histoire et du roman historique.
Si nous ne faisions qu'un simple roman, nous nous hâterions vers le dénouement. Et pour y arriver plus vite, nous négligerions certains détails dont, assure-t-on, les grandes figures historiques peuvent se passer. Ce n'est point notre avis. Du jour où nous avons mis la main à la plume, et il y aura de cela bientôt 30 ans, soit que notre pensée se concentra dans un drame, soit qu'elle s'étendit dans un roman, nous avons eu un double but, instruire et amuser. Et nous disons instruire d'abord, car l'amusement chez nous n'a été qu'un masque à l'instruction. Avons-nous réussi ? Nous le croyons. Nous allons tantôt avoir parcouru avec nos récits, à quelques dates qu'ils se soient rattachés, une période immense. Entre la comtesse de Salisbury et le comte de Monte Cristo, 5 siècles et demi se trouvent enfermés. Eh bien, nous avons la prétention d'avoir, sur ces 5 siècles et demi, appris à la France autant d'histoire qu'aucun historien. Il y a plus. Quoique notre opinion soit bien connue, quoique sous les Bourbons de la branche aînée comme sous les Bourbons de la branche cadette, sous la République comme sous le gouvernement actuel, nous l'ayons toujours proclamée hautement, nous ne croyons pas que cette opinion ne soit jamais manifestée intempestivement ni dans nos drames, ni dans nos livres. Nous admirons le marquis de Posa dans le Don Carlos de Schiller. Mais à la place de Schiller, nous n'eussions pas anticipé sur l'esprit des temps, au point de placer un philosophe du XVIIIe siècle au milieu du héros du XVIe, un encyclopédiste à la cour de Philippe II. Ainsi, de même que nous avons été, littérairement parlant, monarchistes sous la monarchie, républicains sous la république, nous sommes aujourd'hui reconstructeurs sous le consulat. Cela n'empêche point notre pensée de planer au-dessus des hommes et au-dessus de l'époque et de faire à chacun sa part dans le bien comme dans le mal. Or, cette part, nul n'a le droit, excepté Dieu, de la faire à lui tout seul. Ces rois d'Égypte, qui au moment d'être livrés à l'inconnu, étaient jugés au seuil de leur tombeau, n'étaient point jugés par un homme, mais par un peuple. C'est pour cela qu'on a dit « le jugement du peuple est le jugement de Dieu ». Historiens, romanciers, poètes, auteurs dramatiques, nous ne sommes rien autre chose qu'un de ces présidents de jury qui impartialement résument les débats et laissent les jurés prononcer le jugement. Le livre, c'est le résumé. Les lecteurs, c'est le jury.
Texte qui nous est lu par Jacques Fons, un texte vraiment programmatique, Claude Chope, où on voit à peu près les ambitions et les moyens de Dumas. Il s'agit d'amuser, mais l'amusement n'est qu'un masque à l'instruction. Et puis surtout d'offrir aux contemporains moyen de juger l'histoire, enfin en tout cas une vision de l'histoire qui permette aux contemporains d'établir une vision personnelle et un jugement propre.
Oui, très vite, en fait, Dumas a eu cette idée du drame de la France, très vite après ses premiers succès, en fait. En 45, il dit très rapidement que tous les compartiments sont remplis d'avance, dit-il. Alors, il n'y a qu'un an, ou deux, qu'il se donne au roman.
C'est un peu balzacien, ça, tout est fait, il n'y a plus qu'à remplir les cases.
Oui. Donc, les travaux futurs sont déjà esquissés. Et il dit tout simplement, si Dieu me donne encore 5 ans à vivre, j'aurai épuisé l'histoire de France. Et si Dieu m'en donne
10,
qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais soudé César à Saint-Louis. C'est-à-dire un programme immense qui ne sera pas véritablement rempli. Hein.
C'était dans l'esprit de l'époque. On aimait bien à l'époque les histoires universelles.
Voilà,
Martin en a écrit une.
Il est bien évident qu'il est là totalement dans ce grand programme qu'il va essayer de remplir bon an, mal an. Et effectivement, ce grand programme n'est pas un programme vide. Un seul programme artistique, ça dépasse le programme artistique. C'est un programme profondément politique. C'est-à-dire, nous sommes véritablement à une période où le peuple commence à lire, commence à savoir lire, hein, c'est après les lois de Guizot en 33, etc. Et il va donner à un peuple sans mémoire de la mémoire. Et ça, c'est important. Et la mémoire de quoi? De son histoire, c'est-à-dire de lui-même. Le fameux enracinement, il va enraciner, en fait. Et je crois qu'il est clair que pour beaucoup d'entre nous encore, à travers le roman, c'est l'histoire de Dumas que nous portons sur notre histoire à nous. Je ne sais pas, on va un jour ou l'autre parler de Richelieu, par exemple. Il est bien évident que la vision qu'on a de Richelieu...
Elle est largement influencée par Dumas.
Est largement influencée par Dumas et d'autres personnages, Marie-Antoinette aussi. Donc c'est intéressant, je pense.
Alors, quand on l'a entendu dans ce texte tiré des Compagnons de Jéhus, Alexandre Dumas plane tel l'aigle sur la plaine historique et de temps en temps fond sur les... récupère un agneau ou un berger. Mais quand même, quelle était un petit peu sa vision? Alors là, indépendamment de cette position divine, quelle était lui quand même l'écrivain historien? Quelle était sa conception de l'histoire de France et je dirais de la dynamique historique de l'histoire de France?
Bon, la dynamique est claire, c'est-à-dire on va... Au bout, il y a toujours la liberté, hein, la liberté individuelle, la liberté de chacun. Mais entre-temps, il faut donc passer par de grandes phases historiques. Donc, sa vision est claire, hein, donc de la féodalité vers une sorte d'égalité peut-être peu à peu conquise. Et toutes les étapes de l'histoire de France sont nécessaires, c'est-à-dire guidées par la Providence. Et la Providence nous envoie de ces grands hommes comme Louis XI qui coupe la tête des féodaux, Richelieu qui coupe...
Qui continue le travail.
Voilà, la tête, ce sont des coupeurs de tête. En fait, l'histoire de France, les hommes providentiels de l'histoire de France sont des coupeurs de tête.
Quelque chose me dit qu'on reparlera des têtes coupées dans cette série.
Pour réussir à obtenir cette société sans tête, mais qui est la République. Hein, puisque Dumas est un des seuls écrivains du 19e siècle à avoir été constamment républicain. On a beaucoup parlé à propos du bicentenaire d'Hugo, de... La République d'Hugo. Mais la République d'Hugo arrive petit
légitimiste
à petit,
au début,
hein, oui. Très petit à petit. C'est le père de France qui devient républicain. Pour Dumas, au contraire, il y a une permanence de l'affirmation de la République.
Mais alors, justement, Claude Schoppe, c'est un républicain engagé, qui monte sur les barricades quand il faut, qui se déplace en Italie pour soutenir Garibaldi, créer un journal. Enfin bon, il y a un engagement profond, sincère, massif de Dumas dans l'histoire. Mais comment se fait-il qu'ayant cet engagement, il est aussi bon, il est aussi doué dans la déploration et l'évocation des époques défuntes?
Oui.
Parce que quand on lit ses romans, je pense notamment à tout le cycle des Mousquetaires qui est célèbre pour ça. Cette capacité à mettre en scène les fantômes de l'histoire, les spectres comme ça qui continuent d'habiter les couloirs des palais. Il y a quand même un talent un petit peu chez Dumas pour faire sentir cette espèce de grande tristesse des époques révolues, l'ancien régime des salons, l'héroïsme qui n'est plus qui a cédé la place au sens de l'État. Alors, comment fait-on pour être à la fois un grand républicain et un grand nostalgique?
Je crois qu'il est nostalgique par essence, dans la mesure où les individus de l'Ancien Régime sont nécessairement des personnages de drame ou de dramatique, dans la mesure où ils sont condamnés. L'histoire les condamne. C'est-à-dire, ce qu'il va décrire avec nostalgie, ce sont des individus qui ne peuvent pas faire autrement que de mourir parce qu'ils sont condamnés par l'histoire. Donc, il y a une espèce de tragédie de l'histoire, lorsqu'on appartient à une classe, et souvent l'aristocratie, bien sûr, qui est condamnée à disparaître. Et je crois que la mélancolie profonde, plus fortement encore, je crois que Dumas, ou du moins David Lapailleterie, sinon Dumas, est attaché très fortement à un certain nombre de valeurs héroïques, chevaleresques, qui sous les pharisiens Louis-Philippe Barre, n'ont plus cours et qu'il regrette. De même, il regrette la politesse, la délicatesse, les salons, la conversation.
Dans Les Milliers Fantômes, un recueil fantastique, il y a un très beau moment où il dit qu'il a la nostalgie de...
La nostalgie de cette époque
révolue. Du parfum des salons.
Et donc, je crois qu'il est condamné à marcher véritablement comme le damné de Dante, la tête en arrière, pleurant avec sa grande tendresse, son grand cœur, les gens condamnés à mourir.
Alors pour conclure, Claude Chope, réaction du milieu historien, historique. Alors comment les historiens, entre guillemets, de métier, je ne sais pas si à l'époque il y avait vraiment des historiens de métier, si quand même, comment a-t-on reçu un petit peu ce romanesque historique, cette histoire romanesque?
Je crois que très souvent les historiens sont venus à l'histoire aussi par Dumas. Hein.
Je parle des historiens de son époque.
Ah, de son époque.
De tous les gens dont il utilisait les travaux.
Ah oui, oui.
A-t-il été perçu par les historiens de l'époque?
Alors, parlons du grand historien Michelet.
Ouais.
Michelet aimait Dumas. C'est lui qui a donné à Dumas ses lettres de noblesse par des phrases merveilleuses dans La Femme, par exemple, où il dit que c'est le plus grand inventeur après Shakespeare, par exemple. Je crois que Michelet aimait profondément Dumas et a regardé...
Peut-être parce que l'un est un romancier qui louche vers l'histoire et l'autre, qui intègre l'histoire, l'autre un historien dont la narration a une dimension romanesque évidente.
C'est probable, ouais. Mais disons que sur les marges, on a l'impression que Michelet avait savait que Dumas apprenait l'histoire au peuple. Et c'est lui qui a dit, vous avez appris l'histoire bien plus que 40 historiens réunis. Donc, une espèce de complémentarité entre l'histoire et le roman, l'un et l'autre travaillant dans le même sens, c'est-à-dire la mémoire du peuple.
Est-ce que les hommes de pouvoir de l'époque ont utilisé Dumas comme conseiller? Est-ce que cet homme qui sentait si bien l'histoire a été utilisé dans les cabinets politiques?
Ça a été le rêve éternel de Dumas.
Vous voulez être ministre?
Non, pas d'être ministre, non, je pense pas. D'être le conseiller du prince, avec le Ferdinand d'Orléans, c'est vrai.
Ben oui, parce qu'il a quand même été très lié à la famille des Orléans dès le départ. Puisque
la famille, c'est beaucoup plus complexe.
Un de ses membres, en tout cas.
Mais à Ferdinand, certainement. Dumas espérait la royauté de Ferdinand et être joué un rôle, effectivement, d'égérie, si j'ose dire, de Ferdinand. Plus tard, il est probable aussi qu'il a espéré, comme Hugo, jouer un certain rôle dans les conseils de Bonaparte, Louis-Napoléon, Napoléon III.
Claude Chope, si on désire justement se référer à un texte de Dumas qui ferait la synthèse de sa vision de l'histoire et du travail de romancier historien, qu'est-ce qu'on peut recommander à nos auditeurs?
Qu'est-ce qu'on pourrait recommander sur Dumas?
C'est difficile à trouver, sûrement.
C'est assez complexe. Non, je crois qu'il faudrait, aller dans différents textes de Dumas pour essayer de voir où se trouvent ces textes. Enfin, le plus beau texte sur l'histoire, c'est son introduction au roman historique qu'il donnait à la presse. Un superbe texte où il se montre en Christ, quelque part, ressuscitant l'histoire, touchant l'histoire.
C'est un peu le Christ, d'ailleurs, dont on parlera demain. Merci, Claude Chope, pour cette présentation de la conception dumasienne de l'histoire et du travail d'Alexandre Dumas sur l'histoire telle qu'il l'a vécue et telle qu'il a pu la retrouver dans les ouvrages et les mémoires. Le texte était lu par Jacques Frantz, la réalisation était d'Annie Douel, à la technique Alain Joubert et Laure Jung, l'ancrait, une émission proposée par François Angelier. À demain.